Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 10 octobre 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran ne permet aucune agression ni intervention étrangère dans ses affaires, a martelé le commandant de l'armée iranienne. Au moins 100 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués par Israël en Cisjordanie depuis janvier, selon l'envoyé spécial des Nations Unies. Et la mission de transition de l'Union africaine en Somalie annonce l'ouverture de ses centres d'opérations conjoints dans le cadre de la lutte contre les Chebabs. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le commandant en chef de l'armée iranienne a déclaré que les forces armées iraniennes ne permettraient aucune ingérence ni aucune agression étrangère contre le pays. Le général de division, Abdelrahim Moussavi, a fait ses remarques lors d'une cérémonie militaire dimanche 9 octobre, ajoutant que toutes les branches des forces armées iraniennes se soutiennent mutuellement et forment la ligne de front du pays pour protéger la sécurité du pays et faire face aux menaces. Nos ennemis ne peuvent pas tolérer les progrès de cette nation et la solidarité entre la nation et les forces armées, a-t-il dit ajoutant. L'un de leurs principaux objectifs est de saper la sécurité et finalement d'affaiblir la puissance défensive du pays. Le général Moussavi a ajouté que les ennemis de l'Iran utilisent une guerre hybride et des méthodes modernes pour affaiblir les défenses du pays et briser la résistance du peuple pour atteindre leurs objectifs néfastes. Leur stratégie la plus importante est de répandre le désespoir, de briser la fermeté de la grande nation iranienne et de saper la sécurité de l'Iran afin de perturber son indépendance et son progrès. Ils cherchent à priver cette nation de sécurité et d'espoir, à détruire sa résistance, a-t-il ponctué. De nouveaux navires baptisés Shahid Mahtavi et Shahid Bareri seront bientôt rejoints à la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré dimanche 9 octobre le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Ali Reza Tangsiri. Il est à noter que la marine du CGRI a dévoilé 5 septembre une de ses dernières réalisations, le navire de combat et de patrouille nommé Shahid Soleimani. Le dévoilement du navire Shahid Soleimani, d'une conception innovante, équipé de nombreux équipements militaires de pointe, se traduit en termes de la dernière réalisation de la marine iranienne dans le domaine du combat naval, ce qui rend la marine iranienne potentiellement plus puissante dans la protection des frontières maritimes du pays et conduit à sa présence active à des milliers de kilomètres au-delà des frontières maritimes du pays. le général Tangseri a fait état de l'adhésion dans un proche avenir de deux navires iraniens, Shahid Matavi et Shahid Bareri, d'une longueur de 240 mètres et d'une hauteur de 21 mètres à la marine du CGRI. Des navires qui sont capables de transporter des hélicoptères, des missiles et des dizaines de drones. Les deux navires ont la capacité d'être présents dans les eaux lointaines pour assurer la sécurité des compagnies maritimes iraniennes, a noté le général Alireza Tangseri. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a une fois de plus réitéré la position de principe de la République islamique d'Iran sur la nécessité de mettre fin au conflit russo-ukrainien, affirmant que l'Iran n'avait envoyé d'armes à aucune des deux parties dans la guerre en cours. M. Amir Abdollahian a fait ses remarques lors d'une réunion avec le sous-secrétaire d'État polonais à la coopération économique et au développement à l'Afrique et au Moyen-Orient, Pavel Jablonski, à Téhéran, dimanche 9 octobre. Le haut diplomate iranien a déclaré que la position de principe du pays était de s'opposer à l'armement des deux parties dans la guerre en Ukraine dans le but d'aider à arrêter le conflit. Depuis le début du conflit, Téhéran a souligné qu'il rejetait à la fois la guerre et les sanctions, appelant à des efforts diplomatiques pour mettre fin immédiatement à la guerre. M. Amir Abdollahian a salué l'amélioration des relations entre l'Iran et la Pologne dans divers domaines, affirmant qu'aucune limite ne devrait empêcher l'expansion des relations des deux pays sur la base des capacités mutuelles. Le diplomate polonais, pour sa part, a exposé la position de son pays sur les relations mutuelles et les développements régionaux et internationaux les plus importants. L'armée israélienne met sous contrôle un camp de réfugiés palestiniens et une ville voisine dans la partie centrale de la Cisjordanie occupée par Tel Aviv dans le cadre d'une chasse à Uday al-Tamimi, l'auteur de l'opération Ashraf Atarot, qui a tué un soldat israélien. Les forces ont attaqué le camp de réfugiés de Shafat et la ville d'Anata dimanche, bloquant les entrées menant aux deux camps. Des affrontements ont éclaté entre les forces d'occupation israéliennes et des résidents locaux en colère à la suite du raid israélien, au cours duquel les forces ont tiré des cartouches de gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes sur les Palestiniens, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. Le maire d'Anata, Taha Nouman, a déclaré que les forces israéliennes avaient attaqué et fuyé plusieurs maisons de la ville. Selon le rapport de Wafa, les forces israéliennes ont arrêté un Palestinien ainsi que sa femme et son fils après avoir pris d'assaut leur maison là-bas. Samedi 8 octobre, un Palestinien de la ville sainte occupée d'Al-Rot a ouvert le feu à un poste contrôle près du camp de Shafat sur les soldats israéliens y présents en en tuant une et blessant trois autres, dont l'un se trouve dans un état critique. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a salué l'opération comme une réaction au crime de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa. La veille, les forces israéliennes avaient abattu deux adolescents palestiniens lors d'un raid sur la ville de Jenin, au nord de la Cisjordanie. Le coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient affirme qu'au moins 100 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués par les forces du régime sioniste en Cisjordanie occupée depuis le début de l'année. Tor Venisland a fait cette remarque dans un communiqué samedi 8 octobre alors qu'il tirait la sonnette d'alarme sur la détérioration de la situation sécuritaire suite aux tensions accrues entre les forces israéliennes et les Palestiniens en Cisjordanie, y compris à Al-Rots. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, a annoncé dimanche l'ouverture de ses centres d'opérations conjoints, JOC, qui visent à renforcer la coordination et la planification avec les forces de sécurité somaliennes dans la lutte contre le mouvement Al-Shabaab. Le commandant des forces de l'ATMIS, Diomedine Degeya, a déclaré que ces centres avaient été ouverts dans les zones de responsabilité de la mission de l'Union africaine et permettraient aux forces alliées de travailler ensemble pour assurer des opérations efficaces contre les Shabaab. Il a déclaré que le JOC du quartier général des forces de l'ATMIS travaillerait en coordination avec les quartiers généraux de secteur, la police de l'ATMIS, le quartier général de la mission, les forces de sécurité somaliennes et d'autres agences de sécurité afin de mettre constamment à jour les informations relatives à la menace Shabaab et au progrès des opérations. Ces centres permettront de soutenir la mise en œuvre des résolutions de l'ONU qui demandent aux forces de sécurité somaliennes d'assumer progressivement la pleine responsabilité de la sécurité du pays, a-t-il expliqué. Les ministres des Affaires étrangères égyptiens et grecs se sont entretenus dimanche au Caire à la suite du récent accord de prospection pétrolière et gazière signé entre la Turquie et le gouvernement d'Union nationale de Libye. Le ministre grec des Affaires étrangères a qualifié cet accord de menace pour la stabilité régionale, soulignant que la stabilité en Libye et dans la région de la Méditerranée orientale était un objectif stratégique pour la Grèce et l'Égypte. L'administration du Premier ministre basée à Tripoli, Abdelhamid Dibeiba, a signé ce mois-ci un protocole d'entente avec la Turquie qui permet à cette dernière de chercher du pétrole et du gaz dans certaines zones de Méditerranée orientale, des zones sur lesquelles la Grèce revendique la souveraineté. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Rhodes occupé sous les balles. L'entité perd son pari sécuritaire. C'est fou, cet effet de boomerang qui traque partout l'entité sioniste. En Syrie, cela fait des semaines que l'armée de l'air sioniste n'a osé bouger le petit doigt par crainte de voir des missiles et des drones tactiques de la résistance s'abattre par salves croisées sur les Yankees, réduit désormais en proie facile de la résistance. Au Liban, l'entité, littéralement empêtrée dans l'affaire de Karish, se trouve le doigt au mur par ce dilemme devant quoi l'a placé le Hezbollah. Renoncer à la ligne de bouée et accepter l'émergence d'un front naval anti-Israël au large d'Haïfa, et ce, sur fond d'un gisement ultra-riche offshore libanais. Rana, qui ne tardera pas à voir les entreprises iraniennes débarquer ou aller tout droit à la guerre. Et en Cisjordanie, c'est comme le souligne le quotidien sioniste Makarishon, c'est une intifada dans l'intifada qu'Israël est en train de vivre, comme il a cherché à imposer à la Syrie une campagne de guerre dans la guerre. Orly Goldklang, le rédacteur en chef d'un supplément du quotidien, écrit: nous sommes confrontés à une autre intifada entre les intifadas. Par conséquent, nous devrons attendre une nouvelle vague à l'intérieur de la ligne verte, zone occupée en 1948. Dans la deuxième intifada, les milieux sécuritaires israéliens n'étaient prêts à accepter la formation de l'intifada que longtemps après son début. Mais après que les opérations des Palestiniens ont atteint les profondeurs d'Israël et que les explosions ont survenu dans différentes zones, ces cercles ont utilisé l'expression de la deuxième intifada pour les nouvelles opérations palestiniennes. Nous sommes tous assiégés ces dernières semaines. La vague des opérations anti-israéliennes s'est propagée dans tout Israël, la Palestine occupée, alors que l'armée israélienne est incapable de contrôler la situation, dit-il. Qu'est-ce qui a provoqué la panique du sioniste? Tout le mois de septembre, l'entité sioniste l'a passé à soudoyer l'autorité autonome et ses services de sécurité pour qu'ils remplacent ses unités spéciales et leur évitent cet exercice périlleux et désormais impossible qu'est le fait de descendre en Cisjordanie ou encore à Naplouse chercher les combattants palestiniens. La seule opération réussie de l'autorité autonome s'est soldée par l'arrestation de 3 combattants, mais a aussitôt retourné contre les sionistes, qui en ont payé le prix par une opération éclair contre la colonie Holon. Les médias israéliens ont confirmé la mort d'une soldate israélienne dans une opération de poursuite en voiture à Rhodes occupée. Selon les médias hébreux, la soldate tuée s'appelait Noah Lazar. Un autre soldat se trouve dans un état grave. Dans la foulée, les soldats israéliens ont lancé des attaques afin de retrouver l'assaillant qui a tiré sur lui. Cet incident a survenu samedi 8 octobre au poste de contrôle Shafat. Après l'incident, l'armée a publié la photo et le numéro d'immatriculation de la voiture et a demandé aux Israéliens de l'identifier. N'est-ce pas un colossal échec? Au bout de 9 mois d'opérations sécuritaires, jonchées par 1000 et une manœuvre de diversion? C'est d'autant plus colossal que le coup, c'est le Fatah de Mahmoud Abbas qui le revendique, ou plus précisément sa branche armée, Brigade des Martyrs d'Al-Aqsa. Qu'a fait depuis l'entité? L'armée israélienne a déclaré avoir arrêté 15 Palestiniens à Rotz et 9 autres dans la ville d'Anat. Est-ce la réponse adéquate à une véritable guerre qui a fait de toute la Cisjordanie un QG anti-Israël grandeur nature? Absolument pas, dans la mesure où ces arrestations ne font qu'amplifier les opérations à la Palestine historique. Et dire que la Cisjordanie, encerclée par des dizaines de colonies sionistes, bénéficie paradoxalement d'un rempart défensif qui empêche le déploiement massif de forces, faute de lignes d'approvisionnement, mais aussi toute opération aérienne. L'intifada dans les intifadas tourne bien rond.
À tous. Aujourd'hui, un sujet, c'est la condamnation européenne concernant ce qui s'est passé en Iran. En fait, tout simplement, les Européens se donnent le droit d'attaquer la souveraineté d'un pays face à une situation alarmante qui s'est passée en Iran, où même des terroristes ont été arrêtés par la police iranienne. Alors, comme vous le savez, c'est le débat. D'abord, nous avons un reportage, puis nos invités viendront donc débattre du sujet d'aujourd'hui. Est-ce un droit? Est-ce possible que des États décident de s'en prendre la souveraineté d'un autre, surtout en matière de protection du territoire? C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, tout de suite, un reportage a été préparé. Et par la suite, donc, nos invités viendront et discuteront du sujet. Tout de suite, le reportage.
Les enquêtes révèlent la présence d'agents de services d'espionnage étrangers, l'implication directe des gouvernements américains et britanniques et de leurs partisans saoudiens, ainsi que la présence dans les rues de personnes trompées qui se sont transformées en émeutiers, indique le communiqué qui énumère les conclusions suivantes. 49 agents et éléments du groupuscule des Monaferine, OMK, ont été arrêtés. Sur les ordres de leurs supérieurs résidant en Albanie, ces individus ont entrepris une campagne de sabotage allant de la diffusion de fausses informations provocatrices, de l'organisation d'assassinats et de la destruction de biens publics, à la fourniture de divers équipements, y compris du matériel incendiaire, pour affronter les polices et incendier des véhicules et des lieux publics et privés. L'arrestation de 77 membres des groupes affiliés aux sionistes actifs au Kurdistan, à savoir le Parti Komala du Kurdistan, le Parti démocratique du Kurdistan et le Parti Pajak. Certains de ces individus sont des membres de haut rang qui fomentaient des complots contre le peuple opprimé du Kurdistan, de part et d'autre de la frontière entre l'Iran et l'Irak. L'arrestation de 5 membres du groupe Takfiri terroriste qui transportaient 36 kg d'explosifs. Ils ont profité des émeutes pour tenter de faire exploser des lieux publics et s'insinuer dans les rangs des émeutiers pour attribuer les explosions aux belligérants et ainsi intensifier le conflit entre les protagonistes. Des membres de l'organisation d'espionnage Bahaï, dont le siège se trouve à Haïfa occupé, se sont insinués dans le chaos et les perturbations afin d'inciter au vandalisme et à la destruction de biens publics. 3 membres dirigeants et 2 responsables des médias de l'organisation ont été arrêtés ces derniers jours. 9 ressortissants étrangers d'Allemagne, de Pologne, d'Italie, de France, de Pays-Bas et de Suède ont été arrêtés sur les lieux des émeutes ou en arrière-fond du mouvement. Les ambassades, dont les agents étaient d'une manière ou d'une autre impliqués dans les troubles, ont été dûment notifiées. Il s'agit notamment des ambassades d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne et de Suède. Sur les lieux des émeutes, 28 délinquants ayant un casier judiciaire pour trafic et consommation de drogue, hooliganisme et viol ont été arrêtés. Un grand nombre de colts, divers types de mitrailleuses, des cartouches correspondantes et des fusils de chasse ont également été saisis. Suite à ces événements, plus récemment, le ministre des Affaires étrangères a déclaré Conformément aux lois en vigueur en Iran, le gouvernement suit sérieusement l'affaire de la mort de la jeune citoyenne iranienne Mahsa Amini, tandis que la justice poursuit ses investigations et que les rapports médicaux légaux seront bientôt publiés. Hossein Amir Abdollahian a mis en garde contre tout interventionnisme de la part de l'Union européenne qui encourageait les émeutiers et les terroristes qui mettent en danger la vie et les biens des Iraniens. Pour sa part, Joseph Borrell a salué les progrès réalisés dans le processus de négociation et a déclaré que l'Union européenne était prête à mobiliser toutes ses ressources pour parvenir à un accord le plus rapidement possible.
Alors, nous allons accueillir nos deux invités. Je salue d'abord Monsieur Arnaud Develet, juriste international à Moscou, si je ne me trompe pas. Bienvenue, Monsieur Develet.
Oui, bonjour à vous, effectivement, toujours à Moscou. Bonjour à votre équipe et bonjour à votre invité.
Merci beaucoup. Monsieur, notre deuxième invité, donc Monsieur Luc Michel, géopoliticien de Bruxelles. Bonjour Monsieur Luc Michel, ravi de vous revoir sur le plateau.
Bonjour, c'est aussi un plaisir de vous retrouver. Je salue Maître Develet.
Merci beaucoup. Alors, la première chose, je ne sais pas si vous avez entendu donc le reportage qui avait à voir un lien direct avec la fameuse première semaine de problèmes et de manifestations, mais pas que, en Iran, l'intervention de différents États, dont l'Union européenne, qui donc représente plusieurs États. Maître Develet, j'ai envie de passer par vous parce que on a envie de parler de la souveraineté, du fait du côté légal de ce genre de condamnation qui se fait sans enquête. Parce que la police, après une semaine, ils n'ont pas directement déclaré les attaques terroristes qu'il y a eu sur les territoires et au niveau des frontières iraniennes, mais après une semaine d'enquête et de retour d'informations, et aucune enquête a été proposée par l'Union européenne pour savoir ce qui s'est passé, mais par contre les condamnations, elles sont arrivées. Est-ce que d'un point de vue du droit international, est-ce que c'est justifié, sachant que ces mêmes pays européens sont souvent et régulièrement condamnés par la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme?
Effectivement, c'est une question qu'on pourrait se poser avant toute autre considération. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque part derrière l'habillage, tantôt sur les négociations sur le nucléaire, tantôt sur la possible ouverture de l'Iran au monde, en ce qui concerne les Occidentaux qui se considèrent comme le monde, il faut garder à l'esprit qu'il y a encore une fois un double discours. On assiste à des États occidentaux qui, en même temps, fomentent des troubles à distance par le biais d'organisations qui n'étaient pas encore, il y a si longtemps, pour certaines d'entre elles, inscrites sur les listes antiterroristes. Je pense notamment au mouvement Mujahideen El-Haf, les Mujahideen du peuple, comme ils se prénomment eux-mêmes, qui bénéficient de soutien logistique très important en France, avec des budgets aussi conséquents, qui ont des bases d'entraînement dans les Balkans. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'étonner que quelque part, votre pays ait eu mal à partir avec l'Albanie récemment, puisque l'Albanie est vraiment une base d'opérations visant à déstabiliser la République islamique d'Iran. Votre reportage a également mentionné les groupuscules qui sont de toute évidence téléguidés, coordonnés à partir du Kurdistan irakien afin de déstabiliser la frontière occidentale de la République islamique d'Iran. Et maintenant, à la faveur, si je puis dire, d'un fait divers, hein, malheureux pour ce qui concerne effectivement cette jeune femme, mais tout à fait filmée, documentée comme étant un accident. La machine médiatique occidentale s'est mise en branle, si je puis dire, de manière coordonnée et massive pour donner une proportion à cette séquence qui est complètement disproportionnée, mais qui permet ensuite, par la coordination de groupes bien identifiés et de foules plus ou moins artificiellement créées, de laisser entendre qu'il se passe quelque chose, alors qu'en fait, tout est parfaitement, encore une fois, monté de toutes pièces. Et l'idée après, pour ces groupes, ces présences d'espions, il faudra les appeler par leur nom, qui sont plus ou moins en cellule dormante au sein de l'Iran, ils sont activés pour ensuite rajouter de la violence, fomenter peut-être des attaques sur les forces de l'ordre, sur comme ils ont fait en Ukraine, c'était la même chose durant l'Euromaïdan, hein, On sait qu'il y a eu des tireurs d'élite qui étaient déployés sur la place du Maïdan, sur les toits, et qui ont tiré simultanément sur les policiers et sur les manifestants.
Ce qu'il faut aussi annoter, c'est le côté donc légal, c'est-à-dire pas d'enquête de la part d'une Union européenne qui se représente donc des États qui ont déjà eu à mal avec des manifestations. On a eu ce genre de manifestations également on a parlé d'extrémisme nationaliste aux États-Unis. On a mentionné sous l'actualité c'est l'extrémisme nationaliste, c'est comme du terrorisme, hein, du terrorisme blanc si on peut appeler ça comme ça. Mais des mots forts ont été employés pour ce genre d'actes. Et par contre, pour l'Iran, ce n'est pas du tout le cas. Et pourtant, des policiers sont morts, un commandant est même mort. Ce sont des choses, des actes extrêmement graves qui se sont passés. Et on ne mentionne même pas le fait qu'au même moment au Kurdistan irakien, il y avait des attaques américaines concernant un déploiement iranien. Ce sont des faits bien réels, des faits bien mentionnés, qui ne sont pas du tout mentionnés par l'actualité internationale ou européenne, puisque c'est là, à l'heure actuelle, on parle surtout de la condamnation de l'Union européenne par rapport, alors qu'ils sont en pleine diligence auprès des Iraniens pour faire passer le PGAC. Donc c'est encore une sorte d'humour politicien de bas de gamme. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça, c'est toute cette illégalité qui se passe, encore une fois, et qui surtout donne une image extrêmement négative d'un pays que très peu de gens, finalement, savent ce qui se passe exactement dans le pays.
Effectivement, mais la présomption d'innocence et le fait que l'Iran puisse être un État responsable dont les institutions fonctionnent comme elles pourraient fonctionner dans tout État qui a, comment dirais-je, les moyens de ses ambitions quant à gérer un territoire, sont passés par, si je puis dire, aux oubliettes. Tout est une question d'amplification médiatique et ce qu'on appelle le corporate media, de toute façon, travaille main dans la main avec... des agences de renseignement, elles sont subventionnées, les journalistes reçoivent leurs éléments de langage au début de la journée, et c'est un espèce de brouhaha constant qui fait complètement fi, effectivement, de la présomption d'innocence ou d'attendre les résultats de l'enquête pour savoir, effectivement, à quoi on a affaire. Donc l'objectif, il est déjà, si je puis dire, abîme nichot, établi, de telle sorte que... on ne va pas s'embarrasser effectivement de la patience et surtout de garder une certaine circonspection en ce qui concerne les affaires internes d'un pays souverain.
Merci, Maître
Develé. C'est comme ça que ça marche.
Merci, madame. Monsieur Luc Michel, je ne vous ai pas oublié, c'est parce que je voulais vraiment avoir le côté juridique de la situation. Vous-même, Luc Michel, vous avez suivi, je me souviens de vos commentaires, depuis le début, tout ce qui s'est passé en Iran au premier jour par rapport à ces dites manifestations. Moi, on n'est pas en train de parler des manifestations concernant la mort de cette jeune fille. On parle bien des combats qu'il y a eu entre les terroristes et la garde nationale, entre les terroristes et la police, le nombre de policiers qui sont morts, et le côté qu'il y a eu, donc, qu'il y a cette réponse de la part de l'Europe sans même mentionner cet état de fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes à Bruxelles, qui est un représentant même, une capitale même européenne. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui s'y passe? Est-ce que c'est légitime surtout?
Écoutez, c'est un show médiatique. Tout ceci prend place dans les fameuses révolutions de couleur qui ensanglantent le monde depuis octobre 2000 en Yougoslavie. Évidemment, ce matin, la principale vitrine légale de la CIA s'appelle l'AND. C'est un institut du gouvernement américain financé sur le budget du gouvernement américain. Se vantait d'organiser des soulèvements en Iran, à Cuba et en Russie. Mais... il y a une immense hypocrisie. Les démocraties libérales prétendent qu'elles sont la démocratie et les droits de l'homme. En réalité, le 1er octobre, des dizaines de milliers de Catalans sont descendus dans les rues de Valence et de toute la Catalogne pour commémorer l'écrasement par la répression néo-franquiste du référendum des indépendances de Catalogne il y a 5 ans. En ce moment-là, aux États-Unis, il y a un référendum de dérégulation de la communauté afro-descendante de la ville de Détroit qui a déclaré son indépendance et sa solidarité avec la Russie et avec l'Iran. Eh bien, tout cela est réprimé par le FBI, la guerre nationale. Les camarades africains, américains ont été obligés d'organiser d'ailleurs une milice armée sous le type de ce que faisait les Black Panthers dans les années 70. L'Occident n'est pas le lieu de la démocratie ou des droits de l'homme. C'est une tentative de plus qui est liée aux événements d'Ukraine de soulever les peuples contre leurs représentants.
Merci, Monsieur Luc Michel. Alors, ce que j'ai envie aussi de mentionner, qui encore une fois n'était pas du tout mentionné par l'actualité internationale, et quand je parle de l'actualité internationale, je parle autant des réseaux sociaux que des journaux occidentaux, c'est le fait qu'au même moment que se passaient ces fameuses manifestations et ces violences, ces tueries, hein, puisqu'on doit les mentionner, des policiers sont morts, hein, on parle vraiment d'impact important dans le nord et du côté du Kurdistan, c'est le fait qu'au même moment à New York, se passait donc cette réunion de tous les États, que la Serbie a également parlé, M. Reissi a également parlé, tout ça n'a pas été du tout évoqué par l'actualité internationale, et pas assez court, c'était l'Iran au premier niveau, ce qui se passait en Iran, mais la Serbie a quand même lancé un message très intéressant, parce que la Serbie a mentionné le fait que quand il y a eu des problèmes à l'époque de la Yougoslavie, et qu'eux voulaient avoir l'indépendance, tous les États de l'Union européenne et des États-Unis, bien entendu, ont dit oui, ils veulent leur indépendance, c'est normal, on les soutient. Par contre, pour l'Ukraine, les russophones, ils ont beau avoir indiqué que ça fait 10 ans qu'ils se prennent des missiles, pour parler vulgairement, dans la gueule. Ils se font maltraiter par Kiev depuis plus de 10 ans. On parle de mort, hein. On parle de l'arrêt des charbons, des zones de charbon, du fait que si la Russie n'avait pas envoyé du charbon à cette partie-là, ils mourraient de froid en hiver. On parle des froids sibériens, hein, sur ces territoires-là. On parle quand même de faits bien exacts, des choses qui se sont passées cette même semaine, qui ont été complètement cachées par l'actualité internationale, juste mentionnées, à peine visibles pour seuls les spécialistes, parce qu'ils savent qu'ils voulaient suivre ce qui se passait à New York, mais il y a des choses très importantes qui se sont passées cette semaine-là dans le monde entier. Le Burkina Faso, le speech du président serbien, qu'est-ce que vous en pensez, vous étiez à Moscou, d'accord, vous avez une autre actualité, une autre forme d'actualité, ces choses-là sont bien réelles. Monsieur Develet.
Oui, tout à fait, il s'agit de porter, si je peux dire, de magnifier certains aspects aux dépens d'autres, pour des raisons purement géopolitiques, et les droits de certaines minorités, où qu'elles soient, que ce soit des minorités russophones dans les anciennes régions de l'Est de l'Ukraine, ou que ce soit d'autres configurations, si les droits de ces personnes ne sont pas d'une utilité quant à faire avancer un certain agenda géopolitique, alors elles sont mises de côté. Je vous rappellerai que durant la guerre en Yougoslavie, par exemple, il était nullement fait état des bombardements, l'impact de ces bombardements sur les civils serbes. Les Serbes étaient diabolisés, et ce, au plus haut niveau de l'administration américaine de l'époque. On se souvient des remarques désobligeantes formulées par Madeleine Albright à l'époque concernant les Serbes. Et à chaque fois, c'est le même mode opératoire. Et en fonction, encore une fois, des objectifs stratégiques, géopolitiques, certains éléments, certaines parties de l'État profond occidental dans son ensemble, il y a des causes justes et il y a des causes dont personne n'en entendra jamais parler. Là, par exemple, on a eu un massacre commis par l'armée azérie contre des soldats arméniens qui étaient, selon les conventions de Genève, en état de bénéficier d'une certaine protection et d'un certain traitement. Et cette vidéo circule sur le net, où on les voit se faire exécuter de manière extrajudiciaire et sommairement. Donc, est-ce qu'on a parlé de ça? Est-ce que ça a été saisi par les médias occidentaux? Absolument pas. Pourquoi? Parce que l'Azerbaïdjan est considéré comme un substitut pour la fourniture de gaz pour l'Europe.
Donc, mais non seulement on n'a pas été condamné par les États qui se disent démocratiques, qui parlent au nom de la démocratie, qui se permettent de donner des sanctions au nom de la démocratie parce qu'ils veulent protéger les peuples, et dire que ce sont des choses qui n'ont pas été gonnées, pas seulement par les médias, mais par eux-mêmes, ces mêmes présidents, ces mêmes représentants électoraux ou élus, qui condamnent à tort et à travers, sans même parler de vraies morts et de vraies choses qui existent pas très loin de chez eux, parce que l'Azerbaïdjan, hein, les Balkans, tout ce sont des choses qui n'arrivent pas très loin. Par contre, aller se mêler du Burkina Faso ou du Mali ou de quoi que ce soit qui n'a rien à voir avec eux, donc ils connaissent même pas l'histoire ou ce qui s'y passe. Par exemple, j'ai envie de mentionner, est-ce qu'on sait vraiment comment sont traitées les femmes au travail en Iran? Et par contre, on en parle beaucoup dans l'Union européenne, puisque la CEDH n'arrête pas de condamner. J'ai rien que récemment, si je me trompe pas, Monsieur Luc Michel, vous qui êtes en Europe, l'Europe l'Europe et surtout la France se fait régulièrement condamner par la CDEH pour différentes choses et différences qui mentionnent les manifestations, mais qui également mentionnent des décisions parlementaires ou étatiques du pays. Monsieur Luc Michel.
On se rappelle simplement de la répression qui a détruit le mouvement des Gilets jaunes en France. Et en Belgique, ça a été la même façon. Les Gilets jaunes belges ont été dès le début réprimés pour comprendre. Il y a eu des manifestants ébordiés, des mains arrachées, des jeunes filles ébordiées. Il y a eu des gens mis en résidence surveillée en prison. C'est ça la soi-disant démocratie. Vous savez, il y a un roman de George Orwell qui s'appelle 1984. Tout le monde croit ici en Occident que 1984 décrit les régimes fascistes. Mais en fait, il décrit l'évolution vers le fascisme des démocraties libérales. Dans 1984, il y a une autre note et une autre pensée. On décrit notamment, il y a une formule qui dit « La paix, c'est la guerre ». Et ce qui se passe actuellement, je vous explique qu'il y a actuellement un mouvement d'autodétermination dans la ville de Détroit aux États-Unis. Pas une seule dépêche n'y a été consacrée. Pas un seul média occidental n'en a parlé. Pourtant, il y a des centaines de milliers d'Africains qui sont dressés contre la garde nationale américaine et le FBI. C'est la même chose qui se passe à peu partout dans le monde. Et ces gens qui viennent donner des leçons de droits de l'homme à l'Iran, évidemment, ils se taisent alors que l'Azerbaïdjan est en train de massacrer les Arméniens et d'organiser un nouveau génocide arménien comme en 1914.
Merci, monsieur Luc Michel. Alors, qu'attendre de ce qui va se passer dans les jours prochains? Qu'attendre de... Est-ce que l'Europe va vraiment condamner l'Iran et c'est juste une manière, encore une fois, de faire un coup de pression, un coup de levier? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Develay? Est-ce que vous pensez réellement qu'ils ont le droit, déjà, d'aller jusqu'au bout? Et est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Et surtout, quelle serait peut-être la réponse de l'Iran à l'heure actuelle, vu que c'est la souveraineté iranienne qui est mise à mal?
Écoutez, la réaction de l'Iran, moi je pense qu'elle a avant tout pour intérêt d'essayer de reprendre le narratif sur ce qui se passe et ne pas prendre en compte que peut venir des capitales de la chancellerie occidentale. De toute façon, le narratif en ce qui les concerne ne prend pas en compte la réalité factuelle sur le terrain. Et donc c'est une perte de temps d'essayer de, si je puis dire, d'interagir avec un interlocuteur qui ne fait pas preuve de bonne foi. On l'a vu dans le contexte de l'accord qui avait été signé, les Américains se sont retirés, on a des négociations qui porteraient sur leur réintégration, mais ils ne semblent pas comprendre pourquoi l'Iran exigerait qu'il y ait une garantie que cette fois-ci ça ne va pas se reproduire à nouveau. Donc quand vous avez affaire à des États qui véhiculent une mentalité, une façon de faire les choses dénuée d'éthique, et qui est surtout porté sur le mensonge, la déloyauté, la mauvaise foi, et in fine, essayer d'habiller rétroactivement de manière juridique leurs crimes, c'est difficile de penser qu'ils puissent changer leur façon d'être. C'est malheureusement ce qui cristallise et ce qui symbolise la phase occidentale des 500 dernières années. Et dans ce contexte-là, il vaut mieux que les pays eurasiatiques évitent de gaspiller leur énergie sur essayer de changer fondamentalement la nature des Occidentaux. Ils ne changeront pas. L'important, c'est d'être vigilant, de ne pas perdre son sang-froid, parce que les provocations, c'est la marque de fabrique de ces régimes, et de rester, encore une fois, voilà, concentré sur la tâche, tant économique que sécuritaire.
Merci, Maître Develay. Je vous remercie à vous et Monsieur Luc Michel de votre participation à notre débat d'aujourd'hui. Encore une fois, je veux rappeler les faits qui ne sont pas les manifestations qui ont eu lieu de la part du peuple iranien, de ses citoyens, mais des actes terroristes qui ont tué autant de citoyens iraniens que de policiers iraniens. Ce sont ces faits-là qu'on a remis en question et les sanctions européennes par rapport à ces faits-là qui sont déroulées surtout en la première semaine des manifestations. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous avez reçu aujourd'hui une information différente des autres médias. À vous de faire votre opinion. À la prochaine fois pour un autre sujet du débat.
Sayed Ali Salehi, la poésie en toutes circonstances. Ils ont raison, je n'ai pas été bon. Il y a longtemps, au soir d'une journée loin du chagrin du deuil, une colombe malhabile, devinant l'éternuement du ciel, chercha refuge sur la terrasse de notre maison. La fenêtre était close. Je n'étais pas chez moi. Et toute la nuit, il avait plu. L'avenir est à la poésie de parole, estime Sayed Ali Salehi, né en 1955. Digne représentant du mouvement poétique du même nom, apparu vers la fin des années 80. Officiellement fondé en 1988, avec la publication du recueil « La trigonométrie et les ishraq », la naissance du dit mouvement est très tôt considérée comme une réforme au sein de la poésie moderne persane. La poésie de parole mit un terme à l'archaïsme ainsi qu'à l'élitisme dans le domaine de la création verbale. Notre poésie contemporaine fut en effet exclusivement et pendant de longues années réservée au cercle restreint des grands érudits et des universitaires. Bref, elle était restée longtemps étrangère à la langue de la rue et des cafés. Ce fut contre ce monopole poétique que s'injura le poète de parole. Une poésie était née de quiétude et de paix, aussi simple en fait que les salutations de bon voisinage. Elle s'écarta et continue de se tenir à l'écart des contraintes despotiques langagières. Il s'agit là d'une poésie démocratique au sens fort qui garde ses distances vis-à-vis du langage argotique mais qui relève néanmoins du parler standard. Le poète met en effet l'accent sur le potentiel onirique et souvent surprenant de la langue de tous les jours, injustement négligé, comme pour en effacer la poussière et les scories du quotidien. Sayed Ali Salehi, initiateur de la poésie de parole, est natif du sud de l'Iran. Prolifique, il a donné le jour à nombre de recueils, parmi lesquels « J'étais naïf »,« Tu n'étais pas là »,« Il pleuvait » et « Bon voyage aux voyageurs endoloris de l'automne 58 ». Nom, personne, nom de personne. Maintenant, cela fait 1000 années pleines que de temps en temps, je retourne plus bas qu'une vallée lointaine en face d'un rang de sapins brûlés. Je me poste et j'observe. Là, toujours avant le soir, les confidents des champs les plus secrets ont vu ta silhouette sur le mur, donnant sur les haies en ruine. Tu viens tenir une chemise bleu foncé, humide de pluie. Dans le vent, devant le songe du soleil accablé, tu pries, suppliant la lumière, et tu comptes les portes, les fenêtres et les barreaux. Tu comptes les barreaux et les noms des morts. Et la nuit, tu réalises enfin que de l'envie de tant de rendez-vous, de tant d'amour, de tant d'humains, il ne te parviendra plus aucun écrit, ni aucune nouvelle, sinon quelques meutes dans les airs, nus, sans songe, errant, s'enfonçant dans les arbrisseaux, sourds de pleurs, attendant que des années plus tard vienne peut-être à tomber une pluie de rosée ou d'étoiles sur le repos des souvenirs assoiffés, ou peut-être le baiser accompagnant la pluie. Peut-être. Maintenant, cela fait 1000 années pleines que de temps en temps, tu retournes, hésites un instant face au seuil clos. Et là, comme si tu entendais depuis la mer la voix d'un être cher, doucement, tu demandes aux tombes des disparus. Quelqu'un parmi vous n'a-t-il pas vu dans le voisinage le songe de la lumière? Maintenant, cela fait 1000 années pleines que de temps en temps, nous retournons nous asseoir derrière les arbrisseaux sourds de pleurs pour voir en cachette les monts dénudés et encore sur le mur la silhouette des autres. Continuellement, comme il me manque de passer à travers le sommeil de tous ces murs. De ma vie jamais, je n'ai aimé ces murs sans fenêtre. De ma vie jamais, je n'ai été si triste. Franchement, le jour de ma naissance n'a jamais eu de nuit, ni de murs, ni de pleurs. Au début même de chaque joli soir, nous allions vers le ciel connu, et le matin, de bonne heure, plus familier avec le soleil, nous rentrions. La couverture de la nuit fut alourdie par le scintillement de l'étoile. Le soleil nous gagnait. Nous dormions au milieu du dialogue et de la grâce de Dieu. Nous ignorions la valeur claire du songe. Personne ne comptait les gouttes plaisantes de la pluie. Nous appelions l'odeur de l'herbe, le vert, le goût céleste de l'eau fut même bleu, et la lune, cristal indifférent aux nuages, chantait pour n'importe quel passager, en route vers la lumière. Nous aussi nous étions habitués à la visite de la pluie et du miroir. Nous venions l'un après l'autre cueillir les monts de la pointe des branches fragiles du temps. Et puis, nous parlions, nous apercevions, nous comprenions, et l'astuce et le mystère des instants, jusqu'à la nuit où soudain se brisa le miroir, et le silence traversa la ruelle muette des monts, jusqu'à l'asile caché des pleurs. Et maintenant, ma part du repos de tant de souvenirs et de 40 ans et quelques astuces et 1000 autres mystères encore muets. Va-t'en maintenant, je veux dire, il veut mieux s'en aller. Le matin est silencieux, sans fenêtre, sans les murs. Tu te trouves au coin de la maison et moi, en face d'un lointain chemin. Mohammad Ali Sepahlu, né le 20 novembre 1940 à Téhéran, est mort le 11 mai 2015 dans la même ville, est un poète, un traducteur et un critique littéraire iranien. Diplômé de la faculté de droit de l'université de Téhéran en 1963, il est le fondateur, l'administrateur et l'éditeur du journal de l'Association des écrivains iraniens. Il a publié plus de 50 livres de poésie et a traduit plusieurs auteurs renommés en persan, dont Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Il a été l'un des fondateurs de l'Association des écrivains iraniens dont les membres étaient des personnalités éminentes de la littérature iranienne à la fin des années 1960 et 1970. Il a eu des œuvres remarquables comme poète dans sa carrière telles que « Douche »,« Heure de l'espoir », »,« Piéton », »,« Exilé dans la patrie », »,« Rue et désert », etc. Comme traducteur, Sepanlou a traduit les œuvres d'Albert Camus, Jean-Paul Sartre et Guillaume Apollinaire, du français vers le persan. Il a également joué dans certains films. Pérégrination. Le cosmonaute et la pluie ne sont pas les seuls à revenir du ciel. L'homme est toujours dans un éternel retour. De gris, le bleu rare de la mer, le rivage de vérité, la ceinture du rêve. Le monde, avec son chapeau étoilé, ses mains de vent, ses poches emplies de semences, ses pieds de neige dans des chaussures de feu, proclame l'amour et l'essence des cieux. La réalité, celle de la terre. Après une pérégrination, nous revenons, comme de coutume, là où nous avons commencé.
Thank you.